Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre que je viens de recevoir qui s'appelle Endgame, de Derek Jensen, qui, comme vous le savez peut-être, est un auteur que j'adore, que j'admire, et qui va me poser des problèmes juridiques bientôt. Mais ben voilà, parce que j'ai lu un de ses livres pour essayer de défendre une forêt, et visiblement le gouvernement français n'est pas d'accord qu'on lise des livres à la forêt. Nous sommes en plein conflit israélo-palestinien, en plein massacre. C'est difficile de lire, je trouve, d'écrire. Je suis censée faire un nouveau spectacle bientôt. Et voilà, je vois vraiment pas comment je pourrais avoir envie de monter sur scène. En ce moment, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive plus à faire grand-chose et le merveilleux éditeur de ce livre d'Eric Jensen m'a demandé d'en lire un extrait. Donc voilà, je crois que c'est un peu une des seules choses que je suis capable de faire en ce moment. Lire à haute voix des livres sans réfléchir. Voilà, vous allez peut-être entendre le bruit de la pluie et j'espère que ça vous plaira. Le livre s'appelle « Endgame ». Le problème de la civilisation, de Derek Jensen. Préface à la présente édition française, texte écrit par Derek Jensen en mai 2023. Croyez-vous que cette culture, le capitalisme industriel, la civilisation mondiale, peu importe le nom qu'on lui donne, connaîtra une transformation volontaire vers un mode de vie sain et soutenable? J'ai posé cette question à des milliers de personnes lors de nombreuses conférences publiques et personne n'a jamais répondu oui. La question qui se pose alors est celle-ci. Si personne ne croit que cette culture connaîtra une transformation volontaire vers un mode de vie sain et soutenable et que l'on se soucie de la vie sur cette planète, en quoi cela impacte notre stratégie et nos tactiques? La réponse est que nous ne le savons pas parce que nous n'en parlons pas. Et la raison pour laquelle nous n'en parlons pas, c'est que nous sommes tous occupés à faire semblant d'espérer une transformation magique dont nous savons pertinemment qu'elle n'aura pas lieu. La plupart des militants écologistes locaux avec lesquels j'ai travaillé lorsque j'étais plus jeune comprenaient que cette culture est intrinsèquement destructrice et qu'elle ne changera pas. Ils en parlaient souvent, mais seulement à voix basse et en privé. Ils étaient à bout de force, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour protéger telle ou telle créature ou lieu qu'ils aimaient et l'aider à survivre jusqu'à ce que la civilisation s'effondre. Ils considéraient qu'il était de leur devoir de dire « Cela n'arrivera pas sous ma surveillance » et d'incarner cette affirmation. Comme me l'a dit un militant, en privé seulement, « Puisque les choses deviennent de plus en plus chaotiques, je veux m'assurer que certaines portes restent ouvertes. » Autrement dit, si l'omble à tête plate ou le caribou de Selkirk existent encore dans 20 ans, ils seront peut-être là dans 100 ans. Mais si dans 20 ans ils ont disparu, ce sera pour toujours. Ces militants comprenaient, comme l'a formulé David Brower, que toutes nos victoires sont temporaires et que toutes nos défaites sont permanentes. Ils savaient tous qu'une grande partie de ce qu'ils aimaient finirait par être détruite. Mais aucun de ces militants locaux ne le disait en public. Aucun n'a dit « la civiculture industrielle détruit les forêts ». Ils affirmaient plutôt vouloir diminuer telle ou telle vente de bois. Aucun n'a dit « les barrages tuent les rivières ». Ils affirmaient plutôt vouloir diminuer les effets de tel ou tel barrage. Aucun n'a dit « les mines détruisent les aquifères ». Ils affirmaient plutôt vouloir diminuer les effets de cette mine en particulier. Peu d'entre eux ont mentionné en public qu'il n'existe pas de bonne exploitation forestière industrielle, de bonne construction de barrages sur les rivières ou de bonne exploitation minière. Peu d'entre eux ont reconnu que même s'ils mettaient fin à cette vente de bois, détruisaient ce barrage, empêchaient cette mine, des milliers d'autres projets de ce type s'apprêteraient à voir le jour. Et surtout, aucun d'entre eux n'a affirmé publiquement que la civilisation industrielle n'est pas soutenable et ne pourra jamais l'être, qu'elle repose sur la conversion de la planète vivante en produit de consommation, et que le produit national brut est une mesure de cette conversion du vivant, par exemple les forêts, en choses inertes, par exemple des tasseaux de bois. L'une des marques de l'intelligence est la capacité à reconnaître des schémas. Je vais vous présenter un schéma et nous allons voir s'il est possible de le reconnaître en moins de 6000 ans. Lorsque vous pensez à l'Irak, la première image qui vous vient en tête est-elle celle des forêts de cèdres si denses que la lumière du soleil ne touche jamais le sol? C'était pourtant le cas avant l'apparition de cette culture. Le premier mythe écrit de la civilisation occidentale est celui de Gilgamesh déboisant les collines et les vallées de l'Irak pour y construire une grande cité. À plus grande échelle, c'est l'histoire de la civilisation occidentale. La péninsule arabique était une savane de chênes, coupée pour l'exportation. Le Proche-Orient était fortement boisé et nous avons tous entendu parler des cèdres du Liban. Coupés. Au moins, ils en ont encore un sur leur drapeau. L'Afrique du Nord était remarquablement boisée. Ces arbres ont été coupés pour la construction des flottes égyptiennes et phéniciennes. La Grèce était très boisée. On peut lire des écrits de la Grèce antique dont les auteurs se plaignent que l'exploitation forestière nuise à la qualité de l'eau. Le département des forêts et de la qualité de l'environnement de la Grèce antique a certainement répondu qu'il était nécessaire d'étudier la question pendant quelques années pour s'assurer de l'existence d'une corrélation. Saviez-vous qu'il y a 200 ans, les volées de tourtes voyageuses étaient si denses qu'elles obscurcissaient le ciel pendant plusieurs jours? Les courlis esquimaux, si nombreux que 10, 15, 20 oiseaux tombaient sous un seul coup de feu. Il y avait tellement de baleines dans l'Atlantique Nord qu'elles représentaient un danger pour la navigation et les remontées de saumons étaient si abondantes que le claquement de leur queue contre l'eau vous aurait empêché de dormir. Savez-vous pourquoi il n'y a pas de manchots ou d'équivalent écologique dans l'hémisphère nord? Il y en avait. On les appelait les grands pingouins et ils étaient si nombreux que l'on racontait à propos d'une seule des îles qu'ils habitaient que tous les navires de France pourraient en être remplis sans que cela ne laisse le moindre espace vacant. Eh bien, les Français ont joint le geste à la parole et l'espèce a été éradiquée. Le dernier grand pingouin a été tué pour un collectionneur en 1844. Je l'ai attrapé par le cou et il a battu des ailes, il n'a pas crié, je l'ai étranglé. Ces différentes tensions entre ce que nous murmurons en privé et ce que nous déclarons en public, entre la quantité de nature sauvage que les écologistes sont capables de protéger et celle qui doit l'être, entre les besoins de la planète et ceux du système économique, entre le manque de sérieux de notre résistance et ce qui est en jeu, la vie sur la planète, me tourmentait, comme je crois qu'elle tourmente beaucoup d'entre nous et comme elle tourmente la nature sauvage. Je voulais lire un livre qui disait la vérité telle que je la comprenais sur ce que cette culture fait à la planète, sur la dissonance entre notre discours privé et public, sur notre manque d'empressement et sur le fait qu'il est manifestement plus facile pour nous d'envisager la fin de la vie sur Terre ou de faire des remarques condescendantes telles que « Oh, du calme, nous ne pouvons pas tuer la planète, les bactéries s'en sortiront », que nous n'apprécierions pas d'entendre si c'était nous qui étions torturés à mort. « Oh, ne vous inquiétez pas, même lorsque ce corps aura cessé de respirer, les bactéries survivront », que d'envisager de mettre fin à cette culture et au luxe qu'elle nous apporte. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Beaucoup de choses se sont passées depuis. J'aimerais que les remontées de saumons soient aussi disparates aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque. J'aimerais que les populations de grenouilles, de salamandres, de tritons et d'oiseaux chanteurs migrateurs soient aussi peu nombreuses aujourd'hui qu'elles l'étaient alors. En été, je voyais des centaines de minuscules papillons bleus aspirer la boue de chaque flaque d'eau. Aujourd'hui, je n'en vois plus que deux ou trois chaque jour. Je pouvais contempler une douzaine de tritons à peau rugueuse dans l'étang près de ma maison. Je n'ai pas vu un seul triton depuis 10 ans. Chaque hiver, j'observais des groupes de faucheurs de la taille d'une pile d'assiettes s'abriter sous des branches ou des avant-toits. Je crois que j'ai vu 2 faucheurs l'année dernière. Ça me fait penser à quelque chose, là c'est moi qui parle, Audrey, c'est que il y a 6 ans, quand je me suis installée là où j'habite, il y avait des hérissons. Et ça fait 6 ans que je n'ai pas vu de hérissons. Le problème n'est pas local, il se produit partout. Désormais, la masse des humains, de leurs animaux de compagnie et de leur bétail est 10 fois supérieure à la masse de l'ensemble de la vie animale sauvage terrestre. La masse de la technosphère humaine, celle de toutes nos créations, est devenue 7 fois supérieure à celle de toute la biosphère, c'est-à-dire de tout ce qui vit sur Terre. Nous sommes littéralement en train de transformer la planète en artefact, de convertir le vivant en mort. L'écologisme, aussi inefficace qu'il ait pu être pour protéger de vastes étendues de terre, à quelques exceptions près, ne se préoccupe même plus en premier lieu d'essayer de protéger les terres sauvages, les plantes sauvages, les créatures sauvages. Au cours des dernières décennies, il s'est détourné du biocentrisme, de la protection de la nature sauvage, pour tenter de sauver les processus et la culture qui assassinent la planète. Pensez-y. Si vous demandez à 1 million d'écologistes contemporains défilant dans les rues de Londres, de New York ou de Paris pourquoi ils manifestent, ils vous répondront « pour sauver la planète ». Mais si vous leur demandez quelles sont leurs revendications spécifiques, ils vous diront « nous voulons des subventions pour l'énergie éolienne et solaire ». Je ne connais aucun autre mouvement de changement social qui se soit ainsi transformé en un organe de lobbying pour les secteurs industriels qui détruisent ceux que les militants prétendent vouloir défendre. Au fur et à mesure que la menace s'est aggravée, la réponse à cette menace est devenue de plus en plus absurde. Au moins, dans les années 70 et au début des années 80, il existait une organisation qui plaçait la Terre au premier plan et dont le slogan était « Pas de compromis dans la défense de la Terre-mère ». Une parodie de cette organisation existe toujours, la Terre figurant désormais au 10e ou au 15e rang de ses préoccupations. Ce livre tente modestement de relancer un mouvement environnemental biocentré et d'aider la résistance écologique à atteindre l'intensité que requièrent les circonstances. Il tente d'exposer clairement l'inéluctable trajectoire de cette culture et d'extrapoler son avenir. Il tente de nous aider à nous souvenir que nous ne sommes pas la seule espèce sur cette planète, ni même la plus importante. Il tente d'explorer le mythe de la suprématie humaine, sur lequel repose tant de destruction, et d'y répondre par des exemples d'actions qui pourraient voir le jour si nous agissions réellement en défense de la Terre vivante. Que se passerait-il si nous commencions à nous soucier davantage de la vie sur la planète que de ce système économique et social? Que se passerait-il si nous agissions en alliance avec la nature sauvage? Si les saumons koos prenaient forme humaine, que feraient-ils? Détruiraient-ils les barrages? Si les éperlans du delta prenaient forme humaine, combien de temps tiendraient les grosses pompes du delta de Sacramento? Les baleines bleues souhaitent-elles que les océans soient exploités et les antilopes prongornes que des mines souillent leur habitat? Si des extraterrestres débarquaient sur Terre et faisaient à cette planète ce que la civilisation industrielle est en train de faire, modifier le climat, baigner le monde dans des perturbateurs endocriniens, aspirer les océans, transformer la planète en leur propre version de la technosphère, que ferions-nous? Comment agirions-nous? En d'autres termes, les humains qui nous succéderont ne se préoccuperont pas de savoir si nous avons voté, si nous avons trié nos déchets, si nos véhicules fonctionnaient à l'électricité ou au diesel. Ils se préoccuperont de savoir s'ils peuvent respirer l'air et boire l'eau. Ils se préoccuperont de savoir si la Terre peut les nourrir. Il ne sert pas à grand-chose de s'enrichir sur une planète mourante. Si les humains du prochain siècle, à supposer qu'il en existe encore, pouvaient revenir dans le temps et faire en sorte que leur monde ne devienne pas le désastre écologique que cette culture engendre, que ferait-ils? J'espère que les lecteurs se souviendront de l'amour envers la planète et la nature sauvage avec lequel ils sont nés, qui est le droit de naissance de chaque être, à qui cette planète donne la vie, c'est-à-dire de chaque être. Et j'espère que ce souvenir se transformera en une action, proportionnelle non seulement à leur amour, mais aussi au danger qu'encourt leur bien-aimé. J'espère qu'ils en viendront à exprimer publiquement ce qu'ils savent déjà en privé, à savoir que notre mode de vie actuel ne durera pas. Et j'espère qu'ils préféreront eux aussi qu'à la disparition de ce mode de vie, il demeure une plus grande quantité de nature sauvage plutôt qu'une petite quantité. Encore une fois, j'espère qu'ils agiront pour protéger ceux qu'ils aiment. Derek Jensen, mai 2023. I love you, Derek. Chapitre 1. Prémisse. Première prémisse. La civilisation n'est pas soutenable et ne le sera jamais. La civilisation industrielle encore moins. Deuxième prémisse. Il est rare que les communautés traditionnelles abandonnent ou vendent de leur plein gré les ressources dont elles dépendent tant qu'elles n'ont pas été détruites. Elles ne permettent pas non plus que l'on dégrade leurs terres dans le but d'en extraire des ressources, or, pétrole, etc. Il s'ensuit que ceux qui convoitent ces ressources font tout ce qu'ils peuvent pour détruire ces communautés. Troisième prémisse. Notre mode de vie, la civilisation industrielle, repose, sur une exploitation et une dégradation étendue et permanente et s'effondrerait très rapidement sans elle. 4. La civilisation se base sur une hiérarchie clairement définie et largement acceptée, bien que très souvent passée sous silence. La violence exercée par ceux qui occupent le sommet de cette hiérarchie sur ceux d'en bas est presque toujours invisible, c'est-à-dire qu'elle passe inaperçue. Quand elle est remarquée, elle est alors entièrement rationalisée. La violence exercée par ceux d'en bas sur ceux d'en haut est impensable. Lorsqu'elle se produit, elle est considérée avec stupeur et horreur et ses victimes sont glorifiées. 5. La propriété de ceux qui occupent le sommet de la hiérarchie a plus de valeur que celle de ceux d'en bas. Il est acceptable que ceux d'en haut augmentent la quantité de propriété qu'ils contrôlent, en résumé qu'ils gagnent de l'argent, en détruisant ou en exploitant la vie de ceux d'en bas. Cela s'appelle la production. Si ceux d'en bas endommagent la propriété de ceux d'en haut, ces derniers sont en droit de les tuer ou de détruire leur vie. Cela s'appelle la justice. 6. La civilisation est incorrigible. Cette culture ne connaîtra jamais aucune sorte de transition volontaire vers un mode de vie soutenable et sain. Si on ne l'arrête pas, elle continuera à appauvrir la grande majorité des humains et à dégrader la planète jusqu'à ce qu'elle, la civilisation et probablement la planète, s'effondre. Les effets de cette dégradation affecteront les humains comme les non-humains longtemps après cet effondrement. 7. Plus nous attendons que cette civilisation s'effondre, ou plus nous attendons pour la démanteler nous-mêmes, plus l'effondrement sera problématique et plus les choses seront graves pour les humains et les non-humains qui vivront cette période et pour ceux qui viendront après. 8. Les besoins du monde naturel sont plus importants que les besoins de n'importe quel système économique. Une autre version de la huitième prémisse, tout système économique ou social qui ne profite pas aux communautés naturelles sur lesquelles il repose est insoutenable, immoral et vraiment stupide. La soutenabilité, la moralité et l'intelligence, ainsi que la justice, exigent de démanteler tout système économique ou social de ce type, ou au moins de l'empêcher d'endommager votre environnement. 9. Bien qu'un jour, nous serons à l'évidence moins nombreux qu'aujourd'hui, cette réduction de population peut se produire ou être achevée selon la passivité ou l'activité avec laquelle nous choisissons d'aborder cette transformation de multiples façons. Certaines seront caractérisées par une violence et des privations extrêmes. Une apocalypse nucléaire, par exemple, réduirait à la fois la population et la consommation, mais de manière horrible. Il en irait de même si nous continuions à dépasser la capacité de charge jusqu'à l'effondrement. D'autres façons pourraient être moins violentes. Étant donné le degré de violence dont fait actuellement preuve cette culture à l'égard des humains et du monde naturel, il est cependant impossible d'imaginer une réduction de population et de consommation qui n'implique ni violence ni privation, non pas parce que ces réductions impliqueraient en elles-mêmes de la violence, mais parce que la violence et la privation sont devenues la norme. Toutefois, certaines façons de réduire la population et la consommation, quand bien même violentes, consisterait à faire diminuer le niveau actuel de violence requis et causé par le transfert, souvent forcé, des ressources des pays pauvres vers les pays riches, ce qui provoquerait, en parallèle, une réduction de la violence à l'encontre du monde naturel. Personnellement et collectivement, nous pourrions être capables à la fois de réduire et d'adoucir la violence qui se produit lors de cette transformation. Ou peut-être pas. Mais nous pouvons être sûrs de cela. Si nous ne l'abordons pas de manière proactive, si nous refusons de parler de notre présente situation et de la manière d'y remédier, la violence n'en sera que plus sévère et les privations plus extrêmes. Génial, merci Derek. Je pensais que ce 9e prémisse allait me remonter le moral. Bon. 10. Cette culture dans son ensemble et la plupart de ses membres s'en fout. Cette culture est animée par une pulsion morbide, une pulsion de destruction du vivant. 11. Depuis le début, cette culture, la civilisation, est une culture d'occupation. 12. Il n'y a pas de gens riches dans le monde et pas non plus de gens pauvres. Il y a juste des gens. Les riches possèdent peut-être tout un tas de pièces et de bouts de papier vert censés valoir quelque chose, ou leur prétendue richesse est peut-être plus abstraite encore, des chiffres stockés sur des serveurs bancaires, et les pauvres ne possèdent peut-être rien de tout ça. Les riches prétendent posséder la terre, tandis que les pauvres, eux, n'ont pas le droit d'exprimer de telles prétentions. L'un des buts premiers de la police consiste à imposer par la force les délires de ceux qui possèdent beaucoup de pièces et de bouts de papier vert. Dans le monde réel, ces délires produisent des conséquences extrêmes. 13. Les puissants règnent par la force, et plus tôt nous nous affranchirons des illusions qui prétendent le contraire, plus tôt nous pourrons au moins commencer à prendre des décisions raisonnables concernant la possibilité, le moment et la manière de résister. 14. Depuis la naissance, et probablement depuis la conception, mais je ne saurais comment défendre cette assertion, nous sommes individuellement et collectivement éduqués à haïr la vie, haïr le monde naturel, haïr la nature, haïr les animaux sauvages, haïr les femmes, haïr les enfants, haïr nos corps, haïr et craindre nos émotions et à nous haïr nous-mêmes. Si nous ne détestions pas le monde, nous ne permettrions pas qu'il soit détruit sous nos yeux. Si nous ne nous détestions pas nous-mêmes, nous ne permettrions pas que les lieux où nous vivons et nos corps soient empoisonnés. 15. L'amour n'implique pas le pacifisme. 16. Le monde matériel est primordial. Cela ne signifie pas que l'esprit n'existe pas, ni que le monde matériel soit la seule chose qui existe. Cela signifie que l'esprit se mélange à la chair. Cela signifie aussi que les actions dans le monde réel entraînent des conséquences bien réelles. Que nous ne pouvons compter ni sur Jésus, ni sur le Père Noël, ni sur la déesse mère, ni sur le lapin de Pâques pour nous sortir du pétrin. Cela signifie que cette pagaille est une vraie pagaille et pas un battement de cils de Dieu, que nous devons y faire face nous-mêmes, que durant notre passage sur terre, quel que soit ce qui nous attend après la mort, la terre est tout ce qui importe, elle est primordiale, elle est notre maison, elle est tout. Il est stupide de penser ou d'agir comme si ce monde n'était pas réel et primordial. Il est stupide et pathétique de ne pas vivre nos vies comme si elles étaient réelles. 17. C'est une erreur, ou plus probablement du déni, de baser nos décisions sur la nécessité d'éviter que nos actions n'effraient les conformistes ou la masse des civilisés. 18. Notre perception actuelle du moi n'est pas plus soutenable que notre usage actuel d'énergie ou de technologie. 19. Le principal problème de cette culture relève de la croyance selon laquelle contrôler et abuser le monde naturel est légitime. 20e et dernière prémisse. Au sein de cette culture, c'est la finance, et pas le bien-être des communautés, ni la morale, ni l'éthique, ni la justice, ni même la vie, qui oriente les décisions sociales. Modification de la 20e prémisse. Les décisions sociales sont principalement déterminées et souvent exclusivement sur la base de si oui ou non, ces décisions entraîneront une augmentation des fortunes monétaires des preneurs de décisions et de ceux qu'ils servent. Remodification de la 20e prémisse. Les décisions sociales sont principalement déterminées et souvent exclusivement sur la base de si oui ou non, ces décisions augmenteront le pouvoir des preneurs de décisions et de ceux qu'ils servent. Remodification de la 20e prémisse. Les décisions sociales sont principalement fondées et souvent exclusivement sur la croyance quasiment jamais discutée selon laquelle les preneurs de décisions et ceux qu'ils servent ont le droit d'amplifier leur pouvoir et ou leur fortune monétaire au détriment de ceux d'en bas et du monde naturel et de ses habitants non humains. Remodification de la 20e prémisse. Au cœur, si tant est qu'il lui en reste un peu du problème, vous verriez que les décisions sociales sont principalement déterminés sur la base de leur capacité à servir les desseins de contrôle ou de destruction de la nature sauvage. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup d'Eric Jensen. Merci à tous ceux qui défendent le monde encore vivant. Et voilà, peut-être que ce podcast sortira le jour de mon anniversaire, le 31 octobre. Et voilà, ce jour-là, il m'arrivera un truc assez rigolo, c'est que je serai à la gendarmerie pour répondre de mes actes dans la forêt de Bord contre la construction d'une autoroute journée durant laquelle j'ai lu le mythe de la suprématie humaine de Derek Jensen. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je passerai mon prochain anniversaire en garde à vue. Voilà, je vous embrasse et merci beaucoup, à bientôt sur Big Books. Thank you.